Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Cher Père curé, chers frères diacres, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en cette fête de Sainte Agathe, patronne de la paroisse, commençons par jeter un coup d'œil sur la vie de Sainte Agathe, parce qu'elle nous est un exemple, un modèle. Agathe était d'une famille noble. Elle était d'une grande beauté. Elle avait beaucoup de partisans. Et elle veillait à rester dans le droit chemin, à ne pas céder à des sollicitations en tout genre. Et à ce moment-là, dans cette partie de l'Italie, dans le sud de l'Italie, en Sicile, eh bien c'était l'Empire romain. Et dans ces années 2050-2054, eh bien c'était Quirinus, là, qui était préteur, qui était gouverneur de cette région. Et ces personnages avaient beaucoup d'importance, beaucoup d'autorité, beaucoup aussi de moyens de coercition. Et comme ce gouverneur voulait épouser Agathe, oui, Quintinus, excusez-moi, j'ai dit Quirinus, c'est Quintinus, il était épris des charmes de Agathe et il voulait épouser Agathe, mais Agathe avait refusé de se marier avec lui, parce qu'Agathe était chrétienne et puis lui n'était pas chrétien. Et à cette époque-là, on devait rendre aussi un culte à l'empereur, qui était considéré comme un dieu. Et devant le refus de Agathe de se marier avec lui, voilà que le prêteur l'a fait comparaître devant son tribunal. Il y a là un abus d'autorité de sa part, mais comme il est tout puissant, la pauvre Agathe se présente au tribunal. Et le juge alors de poser la question, mais comment vous qui êtes d'une famille noble et illustre, vous pouvez obéir à un genre de vie qui ne convient pas, qui ne convient qu'à des esclaves, qui ne convient qu'à des esclaves. On peut remarquer dans la question là, que les chrétiens sont considérés comme des esclaves. Ils ne sont pas pris en considération. Et que dans la tête de Quintinus, ce qui compte, c'est le clinquant, c'est la position sociale, c'est récupérer aussi l'argent de Agathe, parce qu'elle était riche, elle avait de grands biens. Mais Agathe alors répond au gouverneur en disant, au contraire, la vraie noblesse et la vraie liberté consistent à servir Jésus-Christ. C'est l'idolâtrie qui est un esclavage, puisqu'elle nous rend esclaves de vos passions et vous assujettit au bois, à la pierre et aux métaux dont vous faites des dieux. Oui, le gouverneur et puis tous ceux qui sont païens, là, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui fait que la vie est plus que ce qui apparaît. Mais ce plus qui apparaît, eh bien, il faut le maîtriser aussi pour être plus puissant, être plus fort. Alors on fabrique des divinités que l'on va adorer. Mais évidemment, Agathe ne peut pas accepter ça. Agathe ne peut pas l'accepter parce que toute sa foi est en Jésus-Christ. Elle a confiance en Jésus. À ce moment-là, Quintinus devient furieux et puis il va essayer de la voir par la force, par le supplice. On commence par faire gifler la pauvre Agathe, et puis on essaye de la faire changer d'idée, mais elle est inébranlable. Alors on la met sur un chevalet, on va la fouetter, on va la faire marcher sur des tessons de poterie, on va l'allonger là-dessus. On l'envoie en prison, comme pour la faire changer d'idée. Non, mais elle tient bon. Et puis après, voilà, Agathe, femme, on va l'atteindre au plus profond de sa féminité, de sa dignité de femme. On va lui couper les seins. Et on va la mettre en prison encore. Mais elle est miraculeusement guérie, nous dit la légende. Et lorsqu'elle est en prison, à ce moment-là, oui, il y a un tremblement de terre et puis un pan de mur qui tombe et qui tue deux lieutenants de Quintinus. Quintinus prend peur, il est terrifié, mais il va laisser renforcer les mesures de coercition dans la prison contre Agathe. Alors, Agathe est vraiment un exemple pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons être sollicités par beaucoup d'idoles. C'est pas l'empereur, mais chacun de nous peut se laisser gagner par telle position sociale. Ou bien, dans une discussion, on parle de Jésus, on parle de l'Église, et puis on va se débiner. On ne pourra pas affirmer, on n'affirme pas sa foi, ses convictions. On a peur. Et on a peur aussi parfois de mettre sa vie en accord avec sa foi. Et il ne s'agit pas pour nous d'arranger notre foi à une sauce personnelle de telle manière que eh bien, ça nous convient à nous. Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu notre Père avec Jésus dans le souffle de l'Esprit. Et c'est la confiance aussi, une juste confiance, chacun en soi-même, et puis confiance dans les autres. La foi, en latin, c'est fides, c'est confiance, c'est la même chose. Donc, il nous arrive peut-être de perdre confiance en Dieu, de perdre confiance en nous-mêmes, de perdre confiance dans les autres. Mais parce que nous n'avons pas encore bien compris que la foi a aussi un contenu. Et chaque dimanche, l'Église proclame le credo, le symbole de Nicée. Et tout est là-dedans. Je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Et puis l'Église nous a transmis l'enseignement de Jésus à travers la première communauté des apôtres. Alors, oui, il nous faut regarder ce que nous dit l'Évangile. Et on va regarder ça tout de suite. Et c'est saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, qui nous dit, oui, annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi un motif de fierté. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. L'Évangile, c'est pas d'abord des mots imprimés en noir sur du papier blanc dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament ou la Bible. L'Évangile, c'est tout le mystère de Jésus-Christ, avec ce qui est écrit dans les Évangiles, avec ce qui est écrit dans la Bible aussi au sujet de Jésus. Donc, il s'agit pour nous, comme pour Agathe, d'annoncer ce mystère de Jésus, cette relation de confiance que nous avons avec Jésus, d'abord par notre vie, par nos attitudes, nos comportements, et qu'alors nous n'ayons pas honte de pouvoir dire « je crois ». Ne pas avoir honte de Jésus et de savoir, par exemple, dans un repas, avec des amis ou l'on est invité avec d'autres personnes et quand on commence à dire n'importe quoi sur Jésus ou sur la foi, eh bien d'intervenir et de dire non, excusez-moi, mais voilà moi ce à quoi je crois. Et quand vous dites ça avec délicatesse, quand vous témoignez avec délicatesse de tout cela, eh bien au fond de même, l'autre ou les autres, que ce soit dans un repas ou bien dans une discussion sur la route ou en excursion, eh bien, ils vont vous respecter. Non pas parce qu'il y a la violence, non, il n'y a pas de violence, mais parce que vous êtes vrai, parce que chacun est vrai. Alors, oui, nous avons à annoncer l'Évangile comme Agathe a annoncé l'Évangile devant le juge, devant le tribunal. Et parfois, nous sommes aussi dans des situations où on est comme Job sur son tas de fumier. Et Job a une succession d'épreuves. Ses amis se retournent contre lui et lui disent « Oui, ben, tu as péché contre Dieu, il y a peut-être ceci, il y a ceci ou cela. » Job est humble. Et puis, il a confiance en Dieu. Il sait que les malheurs qui lui tombent dessus, ce n'est pas à cause de lui, ni à cause de Dieu. Ni à cause de lui, ni à cause de Dieu. Mais qu'il y a un mystère du mal qui agit. Et Job adresse des paroles qui parfois peuvent être les nôtres aussi. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant, et je ne compte que des nuits de souffrance. Chacun de nous peut dire ça d'une manière ou d'une autre. Alors, à ce moment-là, on peut être comme paralysé. On n'a plus la force d'avancer. Et certains, et il arrive que certains aient même la tentation du suicide. Mais nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, nous sommes marqués du signe de Dieu, Père, Fils, Esprit, nous sommes marqués du signe de la croix. Et regardons cette puissance de résurrection de Jésus qui et dans la chair humaine, il a connu la souffrance et il a rencontré aussi la souffrance sur son chemin. Il guérit les malades, il expulse les démons. Bon, et l'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus dans la maison de Simon et d'André, et il y a la belle-mère de Simon qui est malade et qui a la fièvre. Alors Jésus la prend par la main, la remet debout, et puis elle reprend ses activités, elle va honorer ceux qui sont dans la maison, ses hôtes, elle va préparer le repas, elle va les servir. C'est formidable. Ben nous, quand on est comme Job, sur notre tas de fumier, et qu'on a une espèce de fièvre intérieure qui fait qu'on est dans la déprime, dans la dépression, là, on n'arrive plus là. Oui, il faut un peu de remède avec le médecin. Et en même temps, ben, il faut raviver sa foi. Et dire, Jésus, je n'en peux plus. J'ai cette espèce de fièvre, de tourment, de déprime qui est là. Prends-moi par la main, comme tu as pris la belle-mère de Simon. Et remets-moi debout. Alors, chers amis, eh bien, n'oublions pas qu'après avoir remis la belle-mère de Simon sur pied, Jésus allait prier là longtemps. Il sortit, se rendit dans un endroit désert, il priait. Il priait et les autres allaient à sa recherche. Et Jésus ne cherchait pas une prière qui l'aurait mis en valeur, lui. Il priait dans un endroit tranquille. Et là, nous rejoignons ce que Jésus dit. Lorsque tu pries, ce n'est pas la peine de te montrer aux quatre coins des rues de telle manière qu'on voit que tu pries. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et puis prie là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On est comme Job des fois. On peut être dans la dépression, dans la déprime avec une sorte de fièvre. Oui, le médecin de la personne, du corps, oui, c'est important. Mais tous les psychologues et tous les psychiatres vous diront que le plus important, c'est le moral, c'est la spiritualité, c'est le souffle de l'esprit. Alors avec Jésus, à ce moment-là, nous pouvons prier et demander le souffle de l'esprit qui renouvelle la face de la terre, qui nous remet debout avec l'aide, oui, de la médecine, avec l'aide des autres, avec ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est important, surtout dans notre société réunionnaise. Souvent, on y pense que, voilà, c'est les bébêtes, ou bien la patinoire, un guérisseur, et voilà, on bascule là, c'est un tel à faire ou le mal. Attention, allez. Mais vous ne voyez pas qu'à ce moment-là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du malin qui est diviseur et qui règne par la peur. Nous sommes invités avec Saint Agathe à laisser de côté les idoles, ce qui ne correspond pas à ce visage de Dieu en Jésus-Christ qui est dans la faiblesse. Il épouse notre faiblesse et il fait attention aux faiblesses qui sont dans nos relations. Il veut nous remettre debout. Remercions le Seigneur pour l'Église depuis 2000 ans, et pour la préparation de l'Église encore avec plusieurs millénaires avant. Remercions le Seigneur pour l'Église qui est à La Réunion, pour l'Église qui est à la plaine des Palmistes, pour vos familles qui ont été les réceptacles de la foi de l'Église, aux familles qui ont cru en Jésus-Christ. Remercions le Seigneur pour vos familles d'aujourd'hui, pour vous-même, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Remercions le Seigneur pour l'Église avec la paroisse, avec Saint Agathe. Et puis votre curé, votre nouveau curé, Père Stanislaw, et vous sentez bien que, à sa manière de parler, il n'est pas de la Réunion. Mais il est de l'Église, et de l'Église universelle. Et il est l'Église avec les apôtres. Alors je remercie le Père Stanislas d'avoir accepté la responsabilité de la paroisse et de marcher petit pas avec vous.